Il est important, lorsqu'on parle de judaïsme, de voir comment le juif et le chrétien sont imbriqués l'un dans l'autre. Le chrétien a absolument besoin du juif, sinon il n'a pas de racines. Le juif n'a pas besoin du chrétien. En tout cas, il ne le découvre pas comme seul. Et donc la situation est asymétrique. Il n'y a pas de symétrie entre la religion chrétienne et la religion juive. Mais il y a une source commune. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et nous disons que le Nouveau Testament accomplit l'Ancien, mais le juif n'a pas besoin d'accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, merci. Mets-les là, on verra tout à l'heure. Donc, il y a, vous pouvez acquérir le syllabus au prix de 7 euros. C'est une histoire douloureuse. L'histoire du peuple juif. Et elle est douloureuse à plus d'un titre en raison des chrétiens. Quand je suis arrivé en 1960 en Israël pour achever mes études, je suis entré dans un oulpan, c'est-à-dire une école pour immigrants. Donc des juifs ou d'autres personnes venant de l'étranger et qui venaient apprendre l'hébreu. Pour toutes sortes de raisons, bien entendu. Et on nous demandait, comme c'était le cas alors, de porter une soutane ocre. Et donc, on voyait tout de suite d'où je venais. Je n'étais pas un juif comme la plupart des étudiants. Il y a une jeune dame qui était dans le groupe qui, quand elle m'a vu arriver, s'est détournée. Puis elle a craché par terre. Et j'ai essayé de lui parler, elle n'a pas voulu me parler. Et j'ai appris aussi par les autres, c'était une juive polonaise. Elle était sortie du ghetto de Varsovie parce qu'elle était dans le ventre de sa maman. Et elle avait échappé au massacre de toute sa famille. Et j'étais le bourreau. Parce que j'étais chrétien. Et que la Shoah est perçue du côté des juifs comme un phénomène chrétien. Nous ne le voyons pas de cette manière, mais c'est comme ça qu'ils le ressentent. Et donc, comme j'étais un chrétien là, au milieu de juifs, j'étais, si vous voulez, l'homme à abattre. Mais j'ai compris une chose très profonde à ce moment-là. Que, étant donné que j'étais un chrétien, je représentais, comme le juif le fait toujours, représenter tout le peuple. Un homme n'est jamais tout seul, il est toujours tout le peuple. Et si vous voulez, si vous avez lu peut-être le livre de Schwarzbart, Le dernier des justes, il essaye d'exprimer cela, comment un juif représente toujours tous les juifs. Ils ont tous des manières différentes de parler ou de percevoir les choses, ça n'est rien. Mais je vous ai dit la fois passée, le judaïsme est une appartenance avant d'être quoi que ce soit, une appartenance. et cette appartenance est déterminée par la naissance. Un juif, c'est celui qui est l'enfant d'une mère juive. Mais notre histoire de chrétien et de juif est une histoire douloureuse. Et nous n'en avons pas conscience. Nous n'en avons pas conscience parce que depuis le judaïsme du départ, et surtout à partir du IVe siècle, les païens ont pris le relais et sont devenus, si vous voulez, la vérité. Et a commencé à ce moment-là ce qu'on appelle l'antisémitisme chrétien, qui est différent de l'antisémitisme païen. Avant le christianisme, les juifs n'étaient pas tellement bien vus dans tout le milieu de la Méditerranée. Il y en avait partout, je vous ai dit ça la fois passée. Il y avait partout des comptoirs juifs à toute la Méditerranée. Les juifs étant la plupart du temps des commerçants. Mais ils se disaient choisis par Dieu. Ils étaient un peuple. Ils n'étaient pas une nation. La nation, ce sont les hommes et les femmes qui se choisissent et qui ont une patrie. Tandis que le juif, c'est celui que Dieu choisit. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Il se croit choisi par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit la fois passée que le choix de Dieu était toujours une responsabilité, mais on ne le voit pas comme cela. On le voit souvent comme un privilège. Mais justement, le peuple juif est là pour dire aux nations, c'est-à-dire aux non-juifs, que eux aussi sont choisis et que chacun est choisi pour lui-même, chaque peuple et chaque personne. Ça, c'est la vocation du juif. Sa vocation, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Kiddush Hashem, la sanctification du nom. Ça, c'est la vocation du juif. Dire qu'on est choisi par Dieu. Que Dieu nous précède, et que Dieu nous fait exister, et que cette existence signifie l'amour. Et que l'amour est une responsabilité et un devoir. Pas un droit, un devoir. Et là, le juif en est bien conscient. Quand est né le judaïsme d'après la Bible? Parce que la Bible en parle, je vous ai dit que le mot « judaïsmos » était utilisé par le deuxième livre des Maccabées, mais les livres des Maccabées ont été écrits en grec et donc ne font pas partie du canon juif. Mais dans la tradition juive, on met la naissance du judaïsme au chapitre 8e du livre de Néhémie. Néhémie 8 nous explique comment le peuple rassemblé va écouter la voix de la Torah qui lui est apportée. Le prêtre et scribe Esdras va lire depuis le matin, le petit matin, jusqu'à la fin de la journée, va lire la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? On apporte la parole de Dieu. On apporte un livre, on apporte un parchemin, un rouleau, ou bien on la porte par soi-même. Il faut qu'il y ait un homme qui apporte ce livre, c'est-à-dire qu'il devienne ce livre. Pour qu'il devienne ce livre, il faut bien sûr qu'il l'ait déjà mangé et digéré. Je vous rappelle le premier chapitre, premier et deuxième chapitre du livre d'Ézéchiel. Il faut être la parole de Dieu pour pouvoir la dire. Et donc, l'assemblée du judaïsme, donc vers les années 400 avant Jésus-Christ, l'assemblée du judaïsme, où tout le monde écoute la parole, écoutez la parole, il ne faut pas seulement la lire, il faut l'écouter, c'est-à-dire la faire entrer jusqu'au fond du cœur pour qu'elle change quelque chose en nous. Et on vous dit d'ailleurs que, entendant la parole de Dieu, le peuple s'est mis à pleurer. Chapitre 8e de Néhémie. Et les scribes et les lévites, les prêtres ou les sous-fifres, si vous voulez, prêtres de seconde zone, mais enfin qui mettent l'ordre dans l'assemblée, traduisaient. On ne savait plus l'hébreu, mais on devait traduire en araméen. Donnait le sens. Tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants en âge d'écouter. Ça veut dire la totalité du peuple a commencé à prendre conscience de son histoire et du rôle qu'il avait dans l'histoire des hommes. Le peuple juif devient conscient qu'il a un rôle à jouer dans l'humanité, c'est-à-dire d'être témoin vivant, bien entendu, témoin vivant de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que un antisémitisme païen existait. Il se croyait supérieur aux autres. Comme ça que c'était perçu par les nations. Si vous avez traduit et expliqué le livre d'Isaïe, vous voyez bien que toute cette problématique intervient surtout à partir du chapitre 40 et encore davantage de 56 à 66. C'est-à-dire au moment où on reconstruit le peuple après l'exil. Israël est un peuple qui a pris conscience qu'il avait été esclave, et il en a pris doublement conscience lorsqu'il se trouvait exilé à Babylone ou à Ninive. Et donc la période de l'exil est essentielle, c'est le creuset où Israël a découvert sa vocation. Et il l'a découvert à ce moment-là. On vous dirait, ben oui, c'est déjà présent avec Abraham. Oui. Mais c'est sa réflexion d'après l'exil qui lui a permis de faire tout le chemin depuis Abraham et de découvrir comment chacun était Abraham et comment chacun avait une expérience de Dieu et que cette expérience de Dieu s'approfondissait de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des générations dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a une continuité et une profondeur qui s'accomplit de plus en plus dans cette continuité. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand on a pris conscience de cela? Mais après l'exil, découverte que Dieu donne tout, qui peut donc tout reprendre, et qu'il pose vraiment la question sur ce qu'il est lorsqu'il a tout repris, lorsqu'on a tout perdu. Déjà dans le désert, on avait perdu les oignons d'Égypte, mais en exil, on a tout perdu, y compris ce qui faisait la réalité du peuple. Il n'y a plus de peuple, il est en exil. Il n'y a plus de terre, ce sont des occupants qui ont pris la terre. Il n'y a plus de présence de Dieu, le temple est détruit. Donc, tout ce qui était vraiment le don de Dieu, les privilèges, entre guillemets, de l'élection, tout cela a sombré. Il ne reste plus rien. Donc le judaïsme, c'est cette reconstruction à partir de rien. C'est pas pour rien que c'est à ce moment-là qu'on écrit aussi la genèse, la création du monde. Alors vous allez avoir une sorte de reconstitution du peuple, mais ce peuple n'a pas tout pouvoir. Ce peuple est dépendant. Il va être occupé depuis cette époque de l'exil. 538, l'édit de Cyrus, on peut revenir sur sa terre. Mais depuis ce moment-là, jusqu'en 1948 de notre ère, il n'y a pas eu de territoire d'Israël. Le territoire a toujours été occupé. Le territoire d'Israël était toujours dépendant d'une autre puissance. Et c'est cette histoire-là qui nous dit ce qu'est le judaïsme. C'est à travers cette conscience, ce sentiment profond, de ne pas avoir de liberté et de vivre toujours sous les ordres d'une puissance étrangère, la Perse, puis la Grèce, puis Rome, puis Byzance, puis les Ottomans. On n'a jamais plus de liberté intérieure. C'est, si vous voulez, l'esclavage d'Égypte qui reprend vie et l'exil. On est en exil, on est en diaspora. Et il n'y a plus qu'un tout petit noyau qui va se retrouver après l'exil. Déjà du temps des Grecs, il s'est posé un gros problème, puisqu'il y avait une sorte de sécularisation, modernité, hellénisation de tout l'univers. Et donc, Antiochus IV Épiphane a instauré la statue de Zeus olympien, 164-160 avant Jésus-Christ. La statue de Zeus olympien sur l'esplanade du temple de Jérusalem. On remplace le dieu des Juifs par la figure de Zeus olympien. Voilà. Hellénisation de l'univers. Et c'est ce qui reste sous les Grecs. D'où insurrection du peuple d'Israël, martyr du peuple, les cinq frères Maccabées, Maccabée veut dire le marteau, Maccabée le marteau, ils vont reprendre Jérusalem, le temple, resacraliser le temple, et qui mettent les Grecs en minorité. Une première insurrection. Puis c'est Rome, conquête de Rome par Pompée, c'est Rome qui vient s'établir, et les grands prêtres, les chefs du peuple, les sanhédrins, devront toujours s'arranger avec Rome. Toujours un pouvoir dominateur. Et donc cela va forcer le juif à se forger intérieurement une liberté d'un autre ordre, plus de l'ordre politique, mais d'ordre religieux. Ma liberté, elle est à l'intérieur. Ma liberté, c'est de pouvoir observer ma loi. Ma liberté, c'est d'avoir une loi différente des lois habituelles, des lois des nations. Pour vous montrer qu'il y a une consistance, une conscience du juif qui va se transmettre de père en fils. Mais là, nous sommes toujours au niveau païen, des autres nations. Et à l'époque de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'il y a différents courants du judaïsme que nous croyons bien connaître, mais que nous avons un peu cliché d'une manière, disons, païenne. Mais il y a quatre courants dans la mentalité juive de l'époque de Jésus. Je parle plutôt de courants que de partis ou que de sectes, parce que ce sont vraiment des mentalités. Vous avez, vous les connaissez bien, mais nous les connaissons souvent par une représentation qui nous est donnée dans les évangiles et qui est partiale, bien entendu. Il n'est pas toute la réalité. Nous avons tout à fait à droite nous avons ce qu'on appelle les sadducéens, c'est-à-dire ceux qui croient que Tsadok, qui était le prêtre à l'époque de Salomon, peut faire maintenant la loi, et donc c'est ce qu'on appelle le sacerdotal, la mentalité sacerdotale. La loi est religieuse. La loi part précisément de cette référence à Dieu. Et la loi est donnée, la loi religieuse est la loi fondamentale. Mais stricte. Les plus strictes de l'observance de la loi sont précisément les sadducéens. Et ils sont majorité dans le Sanhédrin, qui est la manière, donc le Sénat, si vous voulez, dont le peuple juif s'organise intérieurement, suivant la loi de Dieu, mais prise de façon très stricte. Et donc, il y a une séparation déjà, à ce moment-là, entre le religieux et le politique. C'est le religieux qui est important, mais le politique, on peut fricoter avec les Romains, bien entendu, et ils sont plutôt partisans de la réalité romaine. Face à eux, il y a les pharisiens, les séparés, qui, eux, ne veulent pas participer avec l'occupant à la réalité de Rome, et qui s'opposent le plus possible. Mais les pharisiens s'occupent beaucoup du peuple. C'est eux qui servent la soupe populaire, disons comme ça, pour aujourd'hui. Les œuvres de miséricorde sont très importantes dans le pharisianisme. Je ne dis pas pharisaïsme, qui est généralement péjoratif. Pharisianisme, la manière d'être pharisien. Jésus était pharisien. Il appartenait à cette observance. Observance pas stricte, mais traditionnelle. C'est-à-dire une observance qui était interprétée de génération en génération. Le sadducéen prenait l'observance stricte, tandis que le pharisien, au contraire, avait une interprétation importante. L'interprétation de la Torah est la chose qui va être essentielle dans la tradition juive. Il y a une Torah, mais justement cette Torah doit être interprétée d'après un certain nombre de critères. C'est déjà présent là. Sadducéens, pharisiens, mais c'était les sadducéens qui avaient le pouvoir extérieur, si vous voulez, politique, tandis que les pharisiens avaient plutôt l'autorité intérieure. Autorité et pouvoir, c'est pas du tout la même chose. Alors vous aviez à l'extrême droite, si on peut dire, les zélotes, qui étaient partisans de la violence, et eux n'étaient pas du tout des familiers de Rome, au contraire, c'était eux qui organisaient les résistances, à la suite d'ailleurs des Maccabées, pour reconstituer une théocratie. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Et puis vous avez de l'autre côté, alors, les Esséniens qui se retrouvaient dans le désert. Le monde était pourri. Le monde, c'est un terme que va utiliser Saint Jean. Le monde est pourri. Et donc il faut quitter ce monde et vivre, je dirais, comme une élite. Vivre l'alliance de façon tout à fait élitiste dans le désert. Voilà un peu le tableau à la fois religieux et politique où Jésus va se situer. Et justement, la caractéristique de Jésus, c'est une grande liberté intérieure. Il appartient bien sûr à la branche ou à la mentalité pharisienne, mais il réagit. Il réagit à partir... C'est pourquoi on le prend comme un prophète. Les prophètes étaient souvent liés à la royauté, mais ils avaient leur indépendance. Leur indépendance leur venait de leur vocation. Plusieurs révoltes, des juifs, je dis des juifs, en voyant qu'il y a différentes manières de se révolter contre Rome, qui mène justement à la destruction du temple. Alors, Titus, 70 de notre ère. Donc tout l'appareil juif, à ce moment-là, le temple, religion, le Sanhédrin, qui faisait fonction d'unité du peuple, tout cela de nouveau sombre. Septante, destruction du temple. Je vous donne dans les documents la manière dont Flavius Joseph, qui est un juif, qui lui est passé du côté romain, qui était un officier juif, qui est passé, qui a trahi, si vous voulez, son peuple, mais pour se dédommager de sa trahison, il a écrit les Antiquités juives, c'est-à-dire un résumé de la Bible, mais il a écrit en grec, justement, pour les Romains, la langue véhiculaire étant le grec, en tout cas en Orient, il a écrit. Et je vous donne la page de la destruction de Jérusalem. Texte que vous pourrez voir. Vous pourrez voir d'ailleurs le détail de toute cette histoire que je suis en train de raconter par des points, des étapes importantes. Vous trouvez toute cette histoire résumée dans les premières pages du syllabus. Destruction du temple. Alors à ce moment-là, Jean, fils de Zachée, Yohanan ben Zakkai, qui est un hilléliste. Ah. Il y avait, un peu avant Jésus, deux écoles religieuses. L'école qui était restée traditionnellement à Jérusalem, fidèle de façon assez littérale à la Bible, parce qu'il était resté toujours autour du temple et dans ses affaires propres. Et le chef de cette école, qui était un rabbi, comme Jésus va l'être lui aussi, s'appelait Shammai. C'était, si vous voulez, celui qui représentait le conservatisme. Et il y avait à côté de lui un autre chef, Hillel, qui lui venait de Babylone, des écoles qui avaient été qui s'étaient constituées à Babylone après l'exil. Il y avait des gens qui étaient restés, des juifs restés à Babylone, bien sûr, et qui avaient reconstitué une branche. Mais cette branche était beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte. Jésus était plutôt de la tendance Hillel que de la tendance Shammai. Et ces deux grands rabbis ont dit que pendant 3 ans, ils s'étaient disputés, ils avaient fait de grandes séances de dispute pour donner leur interprétation propre de la Torah, la manière d'être libéré par la Torah, parce que la Torah est toujours libératrice. Et donc il y avait deux écoles. Et Jésus va se trouver, va arriver au milieu d'une grande complexité, en fait. Nous simplifions souvent les choses, mais il y avait beaucoup de courants différents et d'interprétations différentes, parce que il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler dans le judaïsme. Il n'y a pas de magistère. Il y a des écoles et des interprétations diverses. Et toutes ces écoles et ces interprétations viennent évidemment du même texte, mais dans des visions différentes. Mais le judaïsme tient toujours à ce qui est un va-et-vient. Un va-et-vient entre le conservatisme et le progressisme. S'il n'y a pas de va-et-vient, tout est statique, on n'avance pas. Or, justement, la loi est un système de progression. Et donc la loi doit tout le temps se confronter aux réalités de l'époque. Destruction du temple, mais fin du 1er siècle, on va se retrouver. Se retrouver, ça veut dire qui ? Mais les religieux. Il n'y a plus de Sadducéens. Les Sadducéens sont partis avec la caisse. C'était eux qui avaient la banque. Hein. Le sacerdoce et la banque étaient liés. Parce que derrière le Saint des Saints, il était la banque. C'est-à-dire les réserves monétaires. Alors, eux, ils sont partis. Ils ont tout perdu, ils sont partis dans la diaspora. Ils ont fait du commerce ailleurs. Les Zélotes ont péri à Matsada. Les Esséniens, ils se sont évanouis dans les déserts. Mais il reste les pharisiens. Et le judaïsme a eu comme partie marchande, il a eu justement le pharisianisme. C'est-à-dire une interprétation de la Torah sur laquelle on se met d'accord, et pour pouvoir se mettre d'accord, il faut savoir quels sont les livres qui font partie de la réalité d'Israël. Et c'est pourquoi ils ont établi un canon, c'est-à-dire une règle, des 22 livres de la Bible, et ils appellent ces livres les livres qui souillent les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend la Bible, on a les mains souillées. Attention. Ça veut dire que quand on prend la Bible, on est dans un autre monde. On est dans le monde de Dieu, dans la relation avec Dieu. C'est ça le monde que l'on vit intérieurement. Et quand on étudie la Bible, eh bien, les mains sont souillées, elles ne sont pas salies, c'est pas du tout cela. Mais elles font quelque chose de saint. Je ne dirais pas sacré, on confond souvent les deux, mais nous verrons qu'il y a une différence. On est occupé à la sainteté de Dieu. Et cette sainteté de Dieu font qu'on ne va pas faire d'autres choses. on a repris un petit peu ce vocabulaire dans notre langage liturgique, puisque nous disons que après la communion, on purifie le calice. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne purifie pas ce qui est pur, hein? Non. Ça veut dire on fait un rite, un geste pour montrer qu'on va passer, repasser dans le monde de ce qu'on appelle généralement le profane. Non, c'est pas non. Profanum, c'est ce qui est devant le temple. Hein? Profanum, devant le temple. C'est-à-dire la vie courante. Vous voyez, il faut donc bien marquer la césure entre les affaires courantes et la présence au saint, la présence consciente à la sainteté. La prière est cette présence consciente. Dieu est présent constamment. Soyez saints parce que moi, le Seigneur, je suis saint. Et donc toutes vos actions sont des actions saintes. Mais il y a une conscience que l'on vit à certains moments davantage. Et donc on va faire établir, si vous voulez, cette table des matières, des livres qui sont les livres saints, et on va s'en inspirer pour la vie courante. C'est ce qui va être justement décidé à l'assemblée de Yavne, ou Yavnea, l'assemblée dernière qui se trouve un peu au sud de Tel Aviv aujourd'hui, un tout petit patelin, puisque Jérusalem est détruit, et on va se reconstituer le peuple juif à partir des textes, à partir d'une interprétation des textes, d'une interprétation qui vient d'une tradition. Écriture, tradition. Et les deux grands principes qui vont être repris dans le christianisme, bien sûr, il y a deux torotes, deux lois. Nous traduisons généralement par loi. Deux lois. Il y a Torah Shebiktav, qui est dans l'écrit, et il y a la Torah Shebaalpeh, la Torah de la tradition, qui se transmet de père en fils, de mère en fille, à travers la vie courante. Et ces deux torotes, ces deux interprétations de la Torah, une qui a été écrite et une autre qui va être transmise par la vie courante, par tradition orale, la Torah chez Baal Peh, qui est sur la bouche, par transmission et par enseignement, vont être à l'origine de la constitution de l'étude. Le mot étude, en hébreu, lamad, la racine lamad, d'où Talmud. Talmud, c'est l'étude. L'étude de quoi? Ben, l'étude de la parole de Dieu. Ah, étude, à partir de l'écrit, d'une parole. Parole écrite qui est faite pour repasser de l'écrit à la parole. La parole de Dieu, c'est une étude qui interprète l'écriture à partir de la vie courante, mais pour la vie courante. Et c'est pourquoi il faudra comprendre ce qu'on lit et le mettre en pratique. Comprendre le Haggid. La Haggadah signifie la compréhension intellectuelle. Et la Halakha, la racine Halak qui veut dire marcher, la manière de faire passer dans la vie l'idéologie qu'on a comprise. Je vous montre petit à petit ce qui a fait que on va constituer d'abord une Mishnah, c'est-à-dire une première interprétation de l'écriture. On a déterminé les livres, puis on va en donner des interprétations toujours diverses. Il n'y a jamais un sens. Il y a toujours une multiplicité de sens dans tous les versets de l'écriture. Dans la tradition juive, on dit d'une manière un peu imagée, il y a pour chaque verset de l'écriture 70 interprétations différentes. Et elles se valent. Mais il faut les prendre ensemble. Et donc, on a une écriture, on va en faire, si vous voulez, un premier double. Et ce double va être la Mishnah. Shana veut dire répétition. La Mishnah, c'est ce qui répète l'écriture. On en donne une version un peu différente, un peu mise en ordre, d'après la vie courante. Et puis, de multiples rabbins vont donner leurs interprétations. Ces interprétations sont toujours transmises de façon orale. Et puis, on va, à un certain moment, 2e siècle jusqu'au 4e siècle, on va écrire ces interprétations. Et vous allez voir, on en reparlera plus loin. Et puis, on va mettre toutes ces interprétations les unes à côté des autres, pour ouvrir l'interprétation. Il ne faut pas la fermer, il faut l'ouvrir le plus possible. Puisqu'il y a des quantités d'écoles, et que ces écoles ont chacune leur spécificité, l'ouverture est une richesse. Et donc c'est tout un travail de talmudisation qui va s'opérer entre le 1er et le 5e siècle, finalement. Et le Talmud va avoir deux tendances. Une tendance plus ouverte, des gens qui ont été en exil et qui se rendent compte qu'il faut vivre la vie courante telle qu'elle est donnée. Et puis, le Talmud conservateur, plutôt, de Jérusalem. Talmud Yerushalmi, Talmud Babli. Deux Talmuds, un plus ouvert, plus accueillant, plus progressiste, l'autre plus fermé, plus strict. Et toujours ce va-et-vient dans la tradition juive. Et les uns et les autres, ce sont de bons juifs. Et donc vous allez avoir des écoles multiples. Et les écoles de Babylone vont devenir florissantes. Et il va y avoir donc des communautés, et ces communautés sont toujours présidées. Elles ont leur système. Bon, ils ont un système dépendant évidemment des gouverneurs, mais ils ont aussi leur système propre. Le Sanhédrin, qui est le juge des affaires religieuses, mais les affaires religieuses sont souvent aussi politiques, le Sanhédrin est le président du Sanhédrin, qui va être appelé patriarche, parce qu'on va parler grec. On va parler grec et on va passer à Byzance. Et donc, le Talmud va aussi s'enrichir, disons comme cela, s'enrichir de certaines perceptions et mentalités grecques aussi. Justement parce qu'on sera dans l'Orient. L'Empire romain d'Orient, puis alors intervient au 4e siècle la conversion de Constantin. Jusqu'à ce moment-là, Juifs et chrétiens sont restés assez fortement ensemble. Il y a bien sûr des distinctions qui se font, Il y en a qui reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu, savoir encore ce que ce terme veut dire, fils, pour un juif. Et ceux qui ne le reconnaissent pas. Et on voit que dans le christianisme et dans le judaïsme, on voit au 1er siècle, au 2e siècle, quand même beaucoup de flou. Et on s'aperçoit maintenant, parce que ces dernières années, on fait beaucoup de travaux, beaucoup d'études sur le moment de la rupture. On dit généralement fin du 1er siècle, c'est vrai, mais on voit que les idées étaient encore marchant fortes ensemble. 2e siècle, 3e siècle, et c'est justement toute la période dans laquelle, d'un côté, la première littérature chrétienne va se déployer, et de l'autre côté, précisément, cette étude interprétative, finalement, de la même écriture de la Bible, c'est-à-dire de l'expérience que le peuple d'Israël a fait de la présence de Dieu. On passe, mais les dissensions vont progressivement s'exacerber. Il va y avoir des divisions, d'abord à l'intérieur d'Israël, et la diaspora va commencer. On a quitté Jérusalem, qui est devenue Elia Capitolina, après la révolte sous l'époque d'Adrien, 132-135 après Jésus-Christ, donc 2e siècle. Le plan de Jérusalem va être tout à fait détruit et une nouvelle ville va se reconstruire, Elia Capitolina. Et ce n'est que vers la Galilée que vont se rassembler la Judéité, oui, ceux qui se réclament de la Judéité. Un certain nombre d'écoles vont se fonder, surtout dans la région de Tibériade. Il va y avoir là, dans ces écoles, un grand travail qui va être fait justement pour recopier les manuscrits. Et alors la diaspora va s'étendre jusqu'en Babylone, en Égypte, Rome et tout le pourtour de la Méditerranée. Entre le 2e et le 4e siècle, on va constituer la Mishnah. Entre le 4e et le 6e siècle, fin du 5e, disons, 6e siècle, le Talmud. C'est-à-dire qu'on va recourir à tout ce qu'on pouvait trouver comme interprétation de l'écriture et on va mettre tout ça ensemble. Et l'étude va être une confrontation personnelle, voilà, par école, bien entendu, une confrontation avec l'écriture, mais à travers toute cette tradition. Et ce qui était déjà présent dans le livre d'Isaïe va devenir la norme de l'interprétation dans ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler au Moyen-Âge, les quatre sens de l'écriture. Voilà comment les choses sont racontées. Le sens littéral, la lettre. Et quand on raconte, on imagine, on a des représentations. Et puis, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on raconte les choses comme cela. Et donc, on va passer à ce qu'on va appeler le sens spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle comme cela. Quelle est l'expérience fondamentale qu'il faut comprendre, qu'il faut faire, qu'il faut réaliser dans le concret, et qui élève l'esprit et le cœur. Et c'est ce qu'on va appeler, ce que les Juifs vont appeler, puis on l'assumera, les pères de l'Église vont l'assumer, le pardès, le sens simple, hein, ce qu'on raconte, l'interprétation première, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, et alors l'élévation de la pensée et la prophétie, c'est-à-dire le sens que nous appellerions mystique, le secret. Interprétation, action, secret, c'est-à-dire vision prophétique. Et voilà comment s'est développée progressivement cette histoire, nous y reviendrons d'ailleurs. Mais à partir de là, de Constantin, qui s'est converti au christianisme et qui a fait, c'est Théodose qui a fait l'obligation de la règle d'État va devenir chrétienne, alors vont commencer les persécutions des Juifs. Petit à petit. La vérité. Et donc, on va commencer à parler des Juifs déicides qui ont tué Dieu. Ça va être donné au concile de Nicée, on va parler comme ça. Ils ont tué Dieu. Et les chrétiens prenant conscience à ce moment-là de leur pouvoir vont d'abord avec des lois, puis progressivement la violence va s'y mêler, violence verbale puis violence réelle, les Juifs vont devenir des persécutés. Et au IVe siècle, la religion chrétienne va prendre vraiment le dessus. C'est la vérité. Et il faut lire cela, évidemment, du côté juif. Le juif qui se sentait donc toujours dans un pays qui n'était pas le sien va maintenant se découvrir mis au banc de ce qui était sa religion profonde au nom du christianisme. Et c'est cette conscience-là qui va travailler ce que va être appelé par l'angoisse des Juifs. Ce sentiment d'être toujours persécuté, de n'être jamais présent là où il devait être. 23 siècles d'antisémitisme par Edward Flannery. Et si vous lisez à un Juif qui fait l'histoire de son peuple, comme Yossi Eisenberg, que vous connaissez bien par les émissions françaises, il exprime très bien la chose. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas assumé tout ce contentieux. Et il a fallu attendre Vatican II pour que nous prenions conscience de toute cette injustice. Parce qu'il faut bien vous dire que les croisés, quand ils partaient d'Europe pour aller délivrer le Saint-Tombeau, qui était pris par l'islam à ce moment-là. Parce que l'islam s'est interposé. Délivrer le Saint-Tombeau, qu'est-ce qu'on faisait pour commencer? On allait se faire la main en détruisant les communautés juives de Mayence, de Cologne, etc. Donc il faut aussi nous dire que, avec le pouvoir, la violence s'était instaurée dans le christianisme. Et puis après ces violences des croisades, vous savez que dans les livres encore en Orient, les chrétiens aussi bien que les musulmans, je sais, du côté arabe, c'est les uns et les autres, mais aussi dans les livres d'histoire des juifs, les chrétiens sont traditionnellement des terroristes. Les croisés, ce sont des terroristes. Mais tout cela forge une conscience, aussi bien pour les musulmans que pour les juifs. Et la tzlav, la croix, pour le juif, c'est l'instrument de la haine. On voit un peu tout ce qui a pu se passer dans cette tradition juive, ben, que la tradition catholique a laissé de côté. Islam, croisade, temps moderne. Au Moyen-Âge vont s'instaurer les ghettos. Pourquoi ? Pourquoi va-t-on mettre les juifs en dehors de la ville chrétienne ? Mais parce que toute la vie professionnelle était distribuée dans des corporations. Ces corporations étaient chrétiennes. Ces corporations avaient un saint patron. Et les juifs, il n'y avait pas de saint patron. Alors, qu'est-ce qui leur est resté ? Deux choses, le commerce et la banque. La banque, parce que c'était l'usure. Le commerce, parce qu'on allait de pays en pays, on allait vendre sa marchandise, surtout les étoffes, surtout la maroquinerie. Voilà comment se sont constituées les choses. Et alors, comme ils n'avaient pas de saint patron, puisqu'ils avaient une autre religion, on les mettait dans un quartier à part, ou bien hors les murs. Et donc ils se sont toujours vus méprisés, mis de côté, persécutés. Et alors, parce que c'était des marchands, ils passaient de ville en ville, et qu'il y avait parfois de la peste au Moyen-Âge, ben c'était eux, évidemment, qui propageaient la peste. Et puis, il y a eu des légendes à propos de l'Eucharistie qui avait été violée, etc. Ici, à Bruxelles, par exemple, ce qu'on appelle le sacrement de miracle. Donc, il faut prendre conscience, petit à petit, de ce dont j'ai dû prendre conscience moi aussi, en étant le bourreau de la famille de cette juive polonaise qui avait échappé au ghetto de Varsovie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais au Moyen-Âge, il y avait quand même assez bien de rapports entre juifs et chrétiens, à un certain niveau. Au niveau intellectuel, souvent. Mais alors, quand est venue la Renaissance, et ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, en hébreu c'est Haskalah, l'intelligence, nous traduirions Haskalah devrait se traduire par rationalisme, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir de la raison. Les Juifs ont commencé, parce qu'ils étaient aussi très intelligents, et que la discipline du Talmud rendait très fort sur le plan intellectuel, encore maintenant. Justement parce qu'on discute des choses, le pour, le contre, et l'ouverture. Pas du tout la fermeture sur soi. Alors, ils ont voulu de plus en plus participer à la vie courante, et alors un autre phénomène s'est produit, celui de l'assimilation, intégration. Est-ce que le pouvoir civil, est-ce que le pouvoir païen, disons, au départ, rationaliste, va pouvoir digérer cette présence du juif dont la référence est toujours l'écriture, la parole de Dieu, pour la traduire à telle ou telle ou telle époque? Assimilation, mais toujours, toujours dans l'opposition. Par les images qu'on se fait de l'autre, l'image du juif était le juif errant. Et il était errant parce que, à la suite de Caïn, il avait été jeté en dehors. Et il fallait qu'il soit errant. Et alors, un certain nombre de théories se sont faites, nous allons le voir la fois prochaine, de théories se sont faites du côté chrétien. Augustin parlera du peuple témoin. Il est témoin de la présence et de la colère de Dieu. Les deux. C'est beaucoup plus subtil. Il faudra voir les différents textes. Et puis, il y a aussi la substitution. Le christianisme s'est substitué au judaïsme. Et le christianisme est né comme ça, comme une secte rejetée. Nous verrons la fois prochaine comment justement ce vis-à-vis chrétien-juif s'est déroulé et où nous en sommes à travers tout cela. Donc vous pouvez prendre, demander à Moussa de s'occuper de la vente de ces syllabus. Et il y en aura encore la semaine prochaine si vous n'avez pas de quoi.
Il y en a du réserve.
Pardon ?
Il y a encore un carton. Il y a encore un carton.
Ah oui, ça. Mais cela, vous lirez le détail. J'essaie simplement, pour le moment, de vous faire percevoir une conscience.